Chapitre 4. C'est bon, j'irai en service à la ville. Les joues embrasées, les lèvres boudeuses, les yeux baissés pleins de colère muette, Monique se tenait debout devant sa mère. Celle-ci, qui filait au rouet, arrachait méthodiquement de fines pincées de lin blond et pour les retenir passait de temps en temps son index sur ses lèvres. Mais les lèvres étaient sèches et le fil rompait souvent. La jeune fille, qui s'en apercevait, suivait d'un air ironique le mouvement de la grande roue de châtaignier polie par l'usage. « Mais j'irai en service à la ville, puisque vous aimez mieux que ça, que de me garder ici au village. Et puis après, si vous n'êtes pas contente, eh bien tant pis. »« Tu me parles comme ça, dit Clémence, stupéfaite. » En s'arrêtant si court que le fil cassa net et que la roue échappant à sa main fit 3 ou 4 tours rapides dans le vide. Monique ne répondit pas, mais une satisfaction malicieuse éclaira son visage. « Mais c'est toi, mon enfant, que j'ai élevé, qui me parle comme ça ?» répéta la mère d'une voix émue plutôt que courroucée. « Mais que voulez-vous que je vous dise ?» répondit la jeune fille en levant la tête. « Je vous ai demandé la permission de me marier. Vous m'avez défendu d'y songer. Je vous ai demandé la permission de m'en aller. Vous n'avez pas dit non. Je pense alors que vous aimez mieux me voir loin que de me voir mariée. Je pense aussi qu'au fond, vous m'aimez tout de même et que vous vous ennuierez quand je ne serai plus là. Il n'y a pas de quoi vous fâcher, ma mère. » Clémence reprit un peu de lin et rattacha son fil sans répondre. Monique jeta un regard par la porte entrouverte et poussa un profond soupir. Il pleuvait. La pluie tombait toute droite en grosses gouttes, sans augmenter ni diminuer. La verdure des haies, brillante et comme vernie, tout auprès de la maison, s'adoucissait au regard en s'éloignant sur la pente du vallon, et à quelque distance, on ne voyait plus rien qu'un gris uniforme, argenté délicieux, ou plutôt une vapeur. Pas de vent, le bruit de la pluie sur les feuilles seulement, pas de cri d'oiseau, pas de lumière vive, presque le silence et le crépuscule. Cependant, on sentait qu'il ne pouvait être plus de 5 heures et que derrière la buée, le soleil était encore bien loin d'avoir achevé sa course. Monique se détourna lentement de la baie lumineuse que faisait la porte dans cette demeure sombre comme un ternier hollandais et prit une canne de cuivre pour la faire reluire. Agenouillée sur le seuil, elle étendit le bras au dehors, sous l'averse, cueillit une poignée d'herbe contre la marche du seuil et, penchée sur la cruche au ventre rebondi, elle se mit à la frotter vaillamment. « Oui, reprit Clémence d'une voix assourdie et monotone à dessein, j'ai l'air d'être dure et mauvaise, et pourtant c'est parce que je t'aime trop pour te voir du malheur. Tu crois que le mariage c'est tout rose, ah, ma pauvre fillette ? Qu'en dirais-tu avant 12 mois si je te laissais faire ? Ici, tu ne fais que ce que tu veux. » Monique secoua la tête d'un petit air railleur. « Oh, tu travailles, c'est vrai, mais à ce qui te plaît. Mais si tu avais les charges et les peines d'un ménage, tu t'apercevrais bien vite que jusqu'à 7 heures, tu n'as travaillé que pour t'amuser. Tu dis que je regretterais quand tu serais parti, c'est vrai. » Mais j'aimerais encore mieux avoir du chagrin parce que tu gagnes ta vie loin de moi que de te voir dans la misère sous mes yeux, sans pouvoir t'en sortir. » Monique, toujours à genoux, fourbissait de toutes ses forces la canne de cuivre rebondie qui lui renvoyait l'image de son joli visage, mais elle ne disait rien. « J'y ai bien pensé depuis 3 jours. » continua la mère, dont le mouvement s'était régularisé et qui filait maintenant sans accident. « Tu ne peux pas rester ici, à présent que ce garçon t'a mis le mariage dans l'esprit. Il t'arriverait malheur et je ne veux pas qu'on te montre au doigt. Monique, rougissante, se pencha sur la canne et frotta plus fort. Il faut donc que tu t'en ailles et le moment est passé d'entrer en service chez nous. Il faudrait t'en aller à la ville, comme tu le dis. Monique retourna la cruche sur l'autre flanc, cueillit une nouvelle poignée d'herbe et recommença de plus belle. Mais tu ne sais pas ce que c'est que le service à la ville. Tu en seras bientôt dégoûté. Ben, je reviendrai alors, ma mère, et vous me laisserez marier. Non, pas avant 3 ans, dit fermement Clémence. La façon décidée dont elle avait parlé fit relever la tête à Monique qui arrêta son bras. 3 ans? Vous nous laisseriez marier dans 3 ans? Si vous n'avez pas changé d'idée, répondit brièvement la vieille femme. Que sont 3 années pour une fillette de 17 ans? Une éternité ou rien du tout, suivant la disposition du moment. Pour Monique, 3 ans paraissait un jour. 3 ans. Elle s'était levée et regardait le brouillard d'argent dans la vallée. Alors pourquoi voulez-vous que je m'en aille, puisque vous ne refusez pas de nous laisser marier? Parce que... Clémence s'arrêta. Au village, on n'est pas délicat dans ses propos. Cependant, elle ne pouvait pas dire à sa fille qu'un stage de 3 ans lui paraissait impossible si les amoureux étaient libres de se voir. Ben, parce qu'il faut que vous ayez un peu d'argent pour entrer en ménage, dit-elle. Bien, parce qu'il faut que vous ayez un peu d'argent pour entrer en ménage, dit-elle. Que ton prétendu se loue de son côté, toi du tien. Au bout de 3 ans, vous aurez économisé sur vos gages, et alors il en sera ce que vous voudrez. Si vous êtes toujours du même avis, ajouta la mère, qui connaissait mieux les choses. Monique fit un petit geste qui exprimait une confiance absolue dans l'avenir. Oh, j'aurai 20 ans, dit-elle d'une voix distraite. C'est loin ce temps-là, mais il finira bien par venir. Sa mère hocha la tête. Elle savait que tous les ans arrivent plus vite qu'on ne l'aurait cru et souvent désiré. Et dites, maman, qui est-ce qui me cherchera une place à la ville? Je ne peux pas y aller comme ça, toute seule, pour demander aux gens s'ils veulent une servante. Elle riait et toute sa vaillante petite personne exprimait la joie et la confiance. Il faudra demander à monsieur le maire, dit Clémence. Il a des parents à la ville du côté de sa femme. Ah oui, je sais, fit Monique. Maman, vous devriez aller tout de suite pour lui demander. Tout de suite? Répéta Clémence ébahie. Mais oui, tout de suite. Plus tôt vous irez, plus tôt on aura fait une réponse, et comme vous avez dit 3 ans, c'est 3 ans à partir d'aujourd'hui, c'est bien convenu. Alors dépêchez-vous, maman, pour que je revienne plus vite. C'est aujourd'hui le 27 juillet, et bien dans le 27 juillet, dans 3 ans, nous nous marierons. Clémence ne put s'empêcher de rire encore qu'elle se sentit le cœur bien lourd. Allez, ma bonne mère, je vous en prie, allez tout de suite chez Monsieur Mahot. Expliquez-lui la chose et qu'on ne s'en dédise plus. Ben, il pleut, dit Clémence en regardant le chemin détrempé poli comme une glace. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il pleut pas toujours? La pluie, ça peut empêcher de rentrer les orges, mais ça n'empêche pas les gens de sortir. Et puis, allez, voilà votre parapluie. Attends, au moins que je mette une coiffe et un tablier propre, dit la mère, se défendant de son mieux. L'armoire fut vite ouverte et Monique présenta à Clémence la plus proprette de ses coiffes en évidence sur son petit poing fermé. 5 minutes après, la bonne femme s'en allait sur la route glissante et luisante, du côté de la maison à monsieur le maire, sur la place, au plus bel endroit. Quand sa mère eut tourné le coin du chemin, Monique, qui l'avait suivi du regard sur le seuil, interrogea le ciel, toujours semblable à lui-même, puis avec une petite moue, aussitôt suivie d'un sourire, elle fit un mouvement pour rentrer. Une ombre grise parut sur la porte ouverte d'une grange vide en ce moment, et la jeune fille ne douta point un instant du corps que représentait cette ombre. Sans se presser, mais avec un léger battement de cœur, elle alla s'asseoir devant le rouet et, quittée par sa mère, et mit en mouvement la pédale pendant qu'elle donnait un tour au fuseau. Un clapotis annonçant des pas se faisait entendre au dehors. Elle réprima à grand-peine un sourire qui creusait des fossettes sur ses joues, en dépit d'elle-même, puis, saisissant une pincée de fil d'or à la quenouille, enrubannée de noir, quenouille de veuve, elle commença à filer gravement. L'ombre entrevue tout à l'heure obstruait la lumière, et bon ami, secouant sa limousine, apparut sur le seuil. « Ah, c'est toi !» demanda Monique avec une fin de gravité. « Ma mère vient de sortir. »« Je le sais bien, depuis ce matin, je la guette. J'ai passé la journée dans la grange à beau-fils. » « Entre donc et assieds-toi, » dit tranquillement la jeune fille. « Elle est allée chez M. Maho. Nous allons pouvoir causer un brin. » Marin s'assit sur l'escabeau de bois, tout près de la porte restée ouverte, pendant que Monique continuait à filer. « Qu'est-ce qu'elle est allée faire chez M. Maho ?» demanda le jeune homme après un silence, pendant lequel il avait suivi sa pensée tout en regardant tourner le rouet et danser le fuseau. La fileuse ne répondit pas sur le champ et parut très affairée à sa quenouille. Lorsque les légers fils de laine, fins comme la soie, se furent débrouillés sous ses doigts, elle remit en mouvement la pédale et dit tout bas « Elle veut bien nous laisser marier. » On a beau être un homme grave, on a beau s'être accoutumé de l'enfance à maîtriser les mouvements de son âme, on ne reçoit pas une semblable nouvelle sans quelque émotion. Marin rapprocha son escabeau de la chaise de Monique, avança en hésitant sa main le long du tablier et tout à coup emprisonna dans les siens les doigts de la fillette pendant que son honnête regard, soudain voilé d'une brume, cherchait les yeux bleus qui souriaient triomphants. « Oh, Monique !» dit-il de sa voix profonde. Et il resta silencieux, fermant pour mieux savourer sa joie ses yeux qui auraient sans cela peut-être laissé couler des larmes. La jeune fille avait arrêté son rouet et le fil soutenait le fuseau immobile à son côté pendant que Marin retenait sa main fluette. « Mais pas tout de suite !» dit-elle avec un petit air prude. « Quand donc ?» demanda l'amoureux en rouvrant les yeux. « Dans 3 ans. » Marin relâcha les doigts et Monique recommença à filer, mais très lentement. « 3 ans ? Mais autant dire jamais !» reprit-il découragé. « On aurait mieux fait de refuser tout de suite. »« Mais non, grand Nigaud, » répliqua vivement la fillette. On dit 3 ans, et puis l'an prochain, je viendrai, je dirai que je m'ennuie là-bas, et l'on nous mariera. Tu veux donc t'en aller ? Murmura le jeune homme, tout à fait perdu dans ses explications embrouillées. Oui, à la ville en service. Ma mère dit que tu te placeras de ton côté pour que nous ayons de l'argent quand nous entrerons en ménage. Marin regarda sa petite fiancée avec des yeux éperdus. Tu tiens donc à l'argent, dit-il, quel malheur que je ne sois pas riche. C'est pas moi, c'est maman, fit Monique d'un air piqué. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas marier la faim avec la soif. Elle parlait d'un ton sage et entendu comme si ses paroles eussent été le fruit de sa propre expérience. Tu crois ? Dit Marin en l'enveloppant de son regard chaud et honnête. Eh bien, moi, je m'étais figuré autre chose. J'avais pensé qu'un de ces jours, après qu'on nous aurait bellement mariés, je t'emmènerais dans ma petite maison au bout du village. La demeure n'est pas riche, mais la maison est bonne et solide, car le vieux bon ami qui l'a fait bâtir n'y a point regretté sa peine. Et les cailloux étaient de braves cailloux qui n'ont jamais laissé entrer ni vent ni pluie. La table et les bancs y sont d'aplomb, le lit est de belles plumes d'oie vives, et ma grand-mère a filé assez de linge pendant sa vie pour qu'il reste encore des draps dans l'armoire. Nous nous serions nichés là, tout seuls et pour la vie. Et si je t'avais eu avec moi, Monique, je n'aurais pas pensé à regarder si ton tablier est de soie ou de coton. La soupe que tu m'aurais préparée m'aurait toujours semblé bonne. Et s'il nous était venu des petits, j'aurais travaillé de bon cœur pour les nourrir, comme pour toi et tout ce qui vient de toi. La main de la jeune fille avait repris sa place dans celle du laboureur, et il regardait sa fiancée comme il ne l'avait peut-être jamais fait. Elle l'avait d'abord écouté en souriant, et puis peu à peu, laissant retomber sa tête sur sa poitrine, elle semblait entendre en elle-même un écho aux paroles de l'homme qu'il aimait. « C'est toi que je veux, continua Marin, et non de l'argent. As-tu besoin pour entrer en ménage de plus beaux habits que ceux que tu portes ? Est-ce que c'est moi que tu as accepté ou bien les meubles de ma maison ? Alors, Monique, pourquoi dis-tu qu'il nous faut de l'argent puisque nous sommes jeunes, courageux et que nous nous aimons ? » Elle tourna les yeux vers lui comme pour lui demander pardon et, troublée, rougissante, elle laissa glisser sa tête sur l'épaule qui s'était rapprochée jusqu'à la toucher. Ils restèrent muets, les yeux fixés sur le petit coin de paysage que la porte encadrait et que la pluie continuait à estomper d'une fine brune argentine. Tout était tranquille et silencieux, comme la vie qu'avait rêvé Marin. Sans grande joie peut-être, sans effort surhumain, sans renoncement sublime, mais harmonieuse et paisible, éclairée par la clarté intérieure d'un grand amour latent, qui n'aurait point besoin de bruyantes manifestations et qui serait l'essence même de cette vie. Un bruit de sabots sur la route détrempée fit tressaillir les jeunes gens qui se séparèrent, et Monique reprit son fuseau. Le bruit décrut, et le silence revint, scandé seulement par le bruit des gouttes d'eau et le ronron régulier du rouet, qui maintenant tournait vite. « Alors, tu ne t'en iras pas ?» demanda Marin d'un ton de suppliante brière. « Je n'en ai pas envie, » répondit la jeune fille, qui lui jeta un regard de tendresse souriante. « Crois-tu que ta mère entende raison ?»« Oh, j'en sais rien du tout. Elle est parfois très obstinée. »« Tu seras de mon côté, pas vrai ? Je crois bien. » Un nouveau bruit de pas retentit et cette fois ne cessa de se rapprocher. « Faut t'en aller, » dit Monique un peu effrayée, « mais elle va te voir, va-t'en par le jardin. »« Non pas, » répliqua Marin d'un ton ferme, « je suis venu voir ma prétendue, je n'ai pas à m'en cacher, et si notre mariage n'est qu'une affaire de temps, ma visite n'est pas une offense. » Comme il achevait ce mot, Clémence parut dans l'embrasure de la porte. Le regard qu'elle jeta sur son futur gendre n'était pas absolument affectueux, mais elle l'envisagea cependant sans rancune et plutôt comme un mal nécessaire. J'étais venu causer avec Monique, dit Marin en manière d'explication. Oh, je le vois, fit la mère en fermant son parapluie. Elle vous a dit que je donne mon consentement. Le jeune homme la regardait, ne sachant comment interpréter ses paroles. Et dans 3 ans seulement, pas un jour avant, reprit-elle. C'est à prendre ou à laisser. Mieux vaut tenir que de courir, répondit le jeune homme, appliquant un proverbe du pays. Va pour 3 ans. Et puis dans l'intervalle, vous changerez peut-être bien d'avis. Oh, n'y comptez pas. Tiens, puisque vous voilà, vous pouvez bien entendre ce que j'ai à vous dire. Monique va s'en aller à Rouen. À Rouen ? S'écrièrent ensemble les deux fiancés. Oui, à Rouen. C'est assez loin pour que vous n'ayez point envie d'inutile d'aller la déranger dans son travail. Madame Mao a une parente à Rouen qui se chargera de placer Monique. Eh bien, je vous engage à vous placer comme elle dans quelques bonnes fermes. Et dans 3 ans, si le cœur vous en dit, vous pourrez vous marier. Bonne amie était restée dans une muette désolation. Monique le poussa du coude, pendant que sa mère, sans s'occuper de leur présence, changeait sa coiffe neuve contre celle qu'elle avait quittée pour sortir. « Il arrive bien des choses, » dit tout bas la jeune fille à son amoureux décontenancé. « Attends, ne t'en va pas. Je vais te faire inviter à souper. » Le jour baissait rapidement. Crépuscule précoce amené bien avant l'heure par la pluie qui assombrissait le ciel, et une tristesse douloureuse, sans appel, semblait tomber sur la terre avec cette obscurité factice. Marin regardait la porte d'un air désespéré. « Maman, dit tout haut Monique, puisque vous consentez à nos accordats, il faut faire un brin de fête. Marin va souper avec nous. » « Jolie fête !» grommela la mère, « et par un temps pareil !»« Mais le temps n'y fait rien, maman !» répondit la fillette d'un ton câlin. « Marin soupera avec nous, et nous ferons de la galette !» La galette du pays n'est autre chose que des crêpes mi-sarrasin, mi-froment. Clémence eut beau protester, et en un clin d'œil, Monique eut déniché du beurre, des œufs et de la farine. Marin, dépêché chez la voisine, revint avec un pot de lait frais, très, et la salle sombre s'illumina tout à coup de la lueur d'une grande flambée d'ajoncs secs, apportée du cellier par la jeune fille, qui traînait derrière elle les longues branches épineuses. Pendant que Clémence, encore bourrue, faisait sauter les crêpes sur la poêle épaisse, sa fille, agenouillée, nourrissait le feu avec de menues branches d'épines et de fougères séchées, et le reflet des flammes claires colorait capricieusement son visage. De temps en temps, elle levait les yeux sur son fiancé, qui la regardait, l'âme pleine d'inexprimables pensées. C'est ainsi qu'il la verrait un jour agenouillée auprès de l'âtre, dans la vieille maison de ses ancêtres. Elle s'occuperait alors des soins de son foyer, de leur foyer, et rien ne pourrait plus les séparer. La pluie tomberait à loisir sur la route et sur la falaise, ils seraient chez eux, et les coups sourds de la mer elle-même sur les parois de granit des grottes ne sauraient les empêcher de se sourire. Clémence se laissa dérider peu à peu. La jeunesse et la joie des fiancés finirent par la toucher, et elle écouta les propos presque enfantins encore de sa fille, sans la rabrouer trop souvent. Les crêpes mangées, le feu tomba et ne fut plus bientôt qu'une braise rouge, rapidement recouverte d'une cendre épaisse et blanchâtre. La petite lampe fumeuse n'éclairait presque plus. Marin comprit qu'il devait s'en aller. Bonsoir, Clémence. Bonsoir, Monique. Elle le regardait un peu émue sous ses cheveux follets. Il l'attira à lui et baisa sa joue rosée, qui semblait se retirer. Puis il ouvrit brusquement la porte qu'on avait fermée pendant le repas. La pluie tombait toujours, mais le vent s'était levé et la secouait en rafale sur les arbres et sur les toits. Sans un geste d'indécision ou de regret, il s'enfonça dans la nuit. Il allait, sous l'averse, aveuglé par les torrents d'eau qui tombaient du ciel, dans l'ombre épaisse que ne traversait aucun rayon de lumière, et pourtant, tiède encore de la chaleur du foyer qu'il venait de quitter, il ne pensait qu'à la grâce ingénue de la petite Monique. Il était agréé, n'était-ce pas assez, pour le remplir de joie? Arrivé devant sa porte, il souleva le loquet et entra. La salle était noire, froide et humide, et une sorte de frisson lui passa sur les épaules. C'était plus triste que le dehors, bien que l'air y fût tranquille, pendant que la tempête secouait furieusement derrière lui les noisetiers du chemin. Il alluma sa lampe sans se presser, un homme qui veut obliger ses mouvements à rester calme, et la leva à la hauteur de sa tête pour regarder autour de lui. Rien n'était changé. Les objets se trouvaient à leur place habituelle, et cependant tout lui semblait indiciblement morne. La pensée qu'il avait repoussée tout le soir retomba sur lui comme une pierre. Mais il se sentit triste à mourir. Cependant, Marin Bonamy n'était pas homme à se laisser avoir du chagrin sans bonne raison. Il alla chercher les branches d'ajon, alluma du feu, et longtemps, longtemps, regarda les lueurs dansantes s'élever et mourir sur l'astre où un jour, dans 3 longues années, Monique, agenouillée, alimenterait son foyer. Monsieur Mao était un excellent homme. Monsieur le maire de Champsay était plein en même temps de morgue et de condescendance, ce qui faisait 2 personnages tout différents d'un seul et même individu. Lorsque, en se promenant le long de son champ, son fameux champ de 400 mètres de long, semé cette année-là d'avoine, il fit venir à lui Monique Brequet. Son premier mouvement fut une joie quasi paternelle à la vue de cet aimable enfant. « Bonjour, petiote » allait-il lui crier par-dessus la haie d'églantier encore fleurie. Ben, il se souvint que la jeune Brequet venait pour lui demander sa protection, vraisemblablement accompagnée d'un certificat de bonne vie et mœurs, pour aller en service à Rouen. Mais il redevint grave. « Que vous faut-il, mon enfant ?» demanda-t-il de sa voix la plus administrative. Les yeux de Monique se levèrent vers ce puissant personnage qui dominait de la hauteur d'un homme le sentier en contrebas. « Bonjour, monsieur Mao, » répondit-elle avec sa bonne humeur un peu narquoise. « Peut-on monter vous parler ?» Monsieur le maire ne savait trop s'il devait permettre cette familiarité, mais Monique avait déjà passé par une des brèches ouvertes dans toutes les clôtures pour abréger les distances, et son joli visage apparaissait encadré de roses de haie au niveau des genoux du père Mao. « Mais tu grimpes comme un cabri, » dit-il, redevenant bonhomme. « Ça ne te sera pas d'un grand usage à la ville, mais ça dégourdit les jambes tout de même. » « Qu'est-ce que ta mère est venue nous conter hier? Tu veux te marier, toi, une gamine ?»« J'aurai 17 ans à la Saint-Michel, » répondit Monique en se redressant. « La belle avance, 17 ans, mais la plus jeune de mes filles en a 18 et elles n'ont pas encore une idée d'amoureux. »« Mais puisque bon ami me veut, dit la fillette avec un petit geste coquet, moitié raillerie à l'égard du prétendu qui la voulait, et moitié supériorité sur les filles qui n'avaient point encore été demandées. Le fait est que s'il te veut, fit le maire en riant, ni toi ni moi n'y pouvons rien, que toi pour le laisser faire et moi pour te donner en mariage. Alors c'est résolu, tu veux t'en aller en service. Monique fit un petit signe affirmatif. Les alouettes chantaient au plus haut du ciel bleu, l'avoine d'un vert tendre se mourait de blanc sur les ondulations d'un vent frais qui faisait frémir les feuilles. La pluie de la veille avait été bue par le sol altéré. Il n'en restait de traces que sur le feuillage plus vert et les routes où des sillons de gravier indiquaient la place des torrents de la nuit. Une gaieté, une intensité de vie extraordinaire bruissaient dans l'air chauffé par le soleil au-dessus de la terre encore fraîche. Le maire de Champsay regarda la jeune fiancée avec une sorte de pitié. Si petite, dit-il, si menue, si peu forte, qu'est-ce que tu t'en vas faire chez les autres ?
Ce qu'on me donnera à faire, répondit-elle. C'est grand, Rouen, monsieur Mahô.
Oh, c'est plus grand que Champsay, fit-il en riant.
Et ça ne t'ennuie pas de servir les autres ?
J'en sais rien, répondit candidement la fillette. Est-ce que c'est difficile ?
Bon, ça dépend.
Mahô resta pensif sur cette réponse peu compromettante. Aux yeux des paysans de ce pays, la domesticité n'est point une situation inférieure. On le comprend d'ailleurs aussitôt que l'on voit de près les relations entre maîtres et serviteurs. Toute l'arrogance, tous les caprices sont du côté de ceux-ci, qui se savent nécessaires et qui en abusent. Quand un propriétaire se décide à prendre à sa solde un valet ou une servante, c'est qu'il ne peut suffire à sa besogne par ses bras et ceux de sa famille, donc le serviteur supplémentaire est un rouage indispensable de l'exploitation et comme tel, il sait se faire valoir. De plus, les bras manquent en général, on ne peut guère remplacer un domestique qu'aux grandes époques de Lourie, la Saint-Madeleine ou la Saint-Martin. De là, l'indépendance de ces gens qui, en réalité, sont absolument les maîtres de la situation, car ils peuvent toujours s'en aller, alors qu'on ne peut pas les renvoyer sans s'exposer à des pertes matérielles. Monique possédait au plus haut degré le sentiment de sa petite dignité. Si elle eût su ce que l'on entend par « service domestique » dans les villes, son orgueil se fût révolté. Mais elle se figurait naïvement que ses devoirs ne seraient point autres qu'ils ne l'avaient été jusqu'ici, près de Madame Mahô, par exemple, ou de tout autre propriétaire des environs.
« Eh bien, viens, » dit Monsieur le maire en redevenant digne. « Ma femme a, je crois, quelque chose à te dire. »
Il prit le devant comme un personnage officiel, et la fillette le suivit d'un air docile, en tournant autour de ses doigts un souple brin d'avoine. Madame Mahô était une bonne femme toute ronde. Il y avait beau temps qu'elle avait perdu la place de sa ceinture et qu'elle n'en avait aucun souci. Par un miracle inexpliqué, son tablier tenait cependant autour d'elle et tout le jour, relevé sur son bras gauche, renfermait tour à tour les choses les plus diverses, depuis le grain pour les poules jusqu'à la pelote de laine qui lui servait à tricoter des bas à temps perdu. D'ailleurs, n'ayant jamais voulu quitter sa coiffe paysanne, bien qu'elle eût apporté en terre à son mari plus de 100 000 francs de dot, en un temps où la terre était bon marché, elle exigeait de ses fils qu'ils portassent la blouse en semaine comme leur père, et ses filles n'avaient jamais connu d'autre coiffure qu'un petit bonnet blanc. Seulement celui-ci était fait de Valenciennes à un Louis le Maître. Au moment où Monique, suivant M. le maire, entra dans la grande salle d'allée, la bonne femme apportait à deux mains un pot de lait, couvert jusqu'au bord d'une épaisse couche de crème jaunâtre.
« C'est donc toi qui t'en vas ?» fit-elle. « Quelle drôle d'idée, mon Dieu !»«
Ben, si ma mère voulait me laisser marier tout de suite, » répondit brusquement Monique, « je m'en irais pas. »
Mao se mit à rire. « Ah, pas mal répondu, » dit-il.
Il s'assit au coin de la cheminée pendant que les deux grandes filles regardaient Monique d'un air un peu jaloux.
« Eh bien, » dit Madame Mao, qui ne met pas à perdre son temps, « écoute-moi, fais pas répéter. »
Elle prit une grande cuillère de buis, presque plate, et se mit à écrémer le lait tout en parlant.
« Ma sœur habite Rouen. Il y a quelque temps, elle m'a fait demander si je connaissais pas une fille du pays pour aller servir une dame de ses amis qui est malade et qui peut pas quitter la chambre depuis plusieurs années. « Change pas, toi. Qu'est-ce qui serait figuré que tu pouvais avoir envie de t'en aller ?» Et j'ai répondu non, parce qu'on n'aime pas envoyer dans les maisons du monde qu'on connaît pas, ou qu'on connaît trop bien. Mais je puis demander si cette personne est toujours dans la même idée, et si tu veux y aller, dame, je t'en empêche pas. Ça ferait-il ton affaire ?»
Il n'y avait plus de crème sur le lait. Madame Mao posa sa cuillère de buis et attendit la réponse.
Tout de même, fit Monique.
En pays normand, c'était un acquiescement complet. Cependant, la jeune fille ajouta :
Je vous remercie de votre bonté, Madame Mao.
Alors j'écrirai, conclut la bonne âme. Et dis-moi, ça lui a pris comme ça, bon ami ? Il t'en avait jamais parlé avant ?
Non, jamais.
Drôle de garçon. Il n'a jamais rien fait comme personne, dit Mao d'un air pensif.
Mais tu vas t'ennuyer là-bas, fit une des jeunes filles d'un air curieux.
Peut-être bien que non, répondit Monique. Ce sera des choses bien nouvelles et j'aurai de quoi apprendre.
Et puis tu gagneras de l'argent, fit l'autre.
Faudra bien, puisque c'est pour ça que j'y vais. Et dites-moi, Madame Mao, si vous le savez, qu'est-ce qu'on me donnera de gage ?
Oh, c'est rien du tout, ma fille. Tu t'arrangeras avec eux quand tu seras là-bas. Ce sont point mes affaires.
Après quelques mots échangés, Monique reprit le chemin de sa maison. Au coin de la place, elle hésita un instant. Son cœur la poussait vers la demeure de bonne amie, où elle savait devoir le trouver à cette heure. Puis un instinct secret l'avertit que la nouvelle qu'elle lui apportait ne ferait point plaisir au jeune homme, et elle se dirigea de l'autre côté. En peu de paroles, elle mit sa mère au courant de ce qui venait d'être conclu, et elle reprit sa besogne habituelle, un peu plus sérieuse que de coutume, et plus silencieuse. Ce n'était pas que Monique se rendît bien compte du changement qui allait s'opérer dans sa vie. Sa petite nature d'oiseau ne lui inspirait pas des pensées profondes. Elle avait 17 ans, et bien des fillettes de 12 ans lui en eussent remontré pour la réflexion. Son intelligence innée la sauvait de sans-folie, là où son jugement ne lui était d'aucun secours. La demande en mariage, qui faisait d'elle une toute autre personne et lui donnait de l'importance, lui avait inspiré d'elle-même une idée nouvelle, et la fillette se prenait désormais très au sérieux, en qualité de promise. Que cet événement lui imposa de nouveaux devoirs, elle n'y songeait pas le moins du monde. Elle y voyait au contraire une sorte de délivrance de 1000 suggestions auxquelles les jeunes filles sont soumises. Avec la confiance de son âge, elle considérait les appréhensions de sa mère comme les fantaisies lugubres d'une femme attristée par les chagrins d'une vie pénible. Pour elle, l'existence serait tout autre. Elle éviterait les fautes comme les peines, et l'amour de son futur mari ferait pour elle du mariage
la réalisation parfaite du plus beau rêve de bonheur. Tout eût été délicieux si elle avait pu se marier tout de suite, ou pour mieux dire, au bout de 6 mois ou 1 an, comme on le fait d'ordinaire en ce pays où les fiançailles sont longues. Restant à Champsay, courtisée par son prétendu à la face du monde, jouissant de tous les petits triomphes d'amour-propre que donne cette charmante situation d'une fiancée dont le mariage approche, elle n'eut rien de mieux à demander au sort. Aller en service, c'était plus dur. Le service, cependant, pour elle, ne présentait rien de véritablement pénible. Le travail matériel des champs qui lui était familier depuis l'enfance entraînait certainement plus de fatigue. Mais quitter Champsay, quitter sa mère et son amoureux, cela méritait bien quelques regrets, et c'est ce qui rendait Monique silencieuse. Elle aimait le pays, la mer et la falaise. Elle aimait les hautes fougères où le vent dessine des moires fugitives en même temps qu'il soulève des embruns sur les vagues au bas des roches. Elle aimait l'eau claire des fontaines et les degrés où s'assemblent les filles des villages pour se raconter les histoires de l'endroit. Elle aimait aussi les grandes pièces de terre où, toute petite, elle avait suivi sa mère au travail des foins et de la moisson, tantôt endormie le long de la haie tapissée de fraisiers à l'ombre des grands ormes ou d'un frêne au feuillage mobile. Elle allait quitter tout cela. Les souvenirs d'enfance voltigeaient autour d'elle comme des papillons sur une luzerne fleurie, à mesure qu'elle comprenait mieux la notion réelle du départ. Son enfance avait été rude, soit, mais c'était l'enfance avec l'indicible grâce qu'elle attache aux moindres choses. Tout lui avait paru beau, grand, mystérieux. Les trous de la falaise et les grottes de la mer qui lui avaient servi de cachette dans ses jeux lui inspirait toujours la même affection mêlée d'un peu de respect. Elle était familiarisée avec les endroits, et les souvenirs évoqués par eux restaient empreints d'une sorte de terreur sacrée. Sa mère aussi éveillait en elle un sentiment analogue. En regardant à la dérobée, le profil encadré dans la coiffe au bord du bassin, Monique se rappelait maintenant 1000 choses du temps passé. Cette mine sérieuse était douce autrefois, quand elle se penchait sur le petit ber où s'endormait la fillette qui marchait à peine. Ses yeux entourés de rides avaient pleuré depuis. La bouche qui souriait à l'enfant chéri avec des mots de caresse s'était figée dans une expression ferme et douloureuse. Mais pourtant, que de bonté sous l'apparente rudesse de cette mère. Monique se rappelait qu'elle avait jadis entouré de ses menottes ce visage aujourd'hui si peu encourageant. Est-ce donc qu'il y aurait pour les enfants comme pour les oiseaux un temps heureux où leurs parents les aiment et les choient, puis un autre où, traités en étrangers, ils se voient chassés du lit et du foyer? Mais si Clémence voulait pourtant, Monique ne partirait point. Avec un peu de l'argent que réservait pour ses vieux jours, la vieille femme effrayée à l'idée de la misère possible, on pourrait se marier tout de suite, sans craindre les hasards de la vie. Mais Clémence voulait que les jeunes gens fissent leur nid eux-mêmes. Ah, encore une idée d'oiseau, cela, et pas charitable. Le cœur gros, retenant ses larmes, Monique pensa à Marin Bonamy. C'est celui-là qui aurait du chagrin quand elle serait partie. Elle ignorait tout de l'amour et pourtant elle sentait que le jeune homme allait vivre dans une mélancolie profonde en attendant le jour éloigné qui les donnerait l'un à l'autre. Elle y pensa 1 minute, puis son esprit instable se détourna de cette méditation des choses inconnues
qui la tristait et la fatiguait en même temps, et elle revint à elle-même. Rouen, c'était une grande ville, et elle y verrait des nouveautés, bien surprenantes sans doute. Il devait y avoir de grands magasins avec des étoffes, des meubles, des bijoux, des choses dont on n'a pas l'idée au village. Si la dame qu'elle allait servir était bonne, elle lui ferait des cadeaux, des rubans, des fichus, un tablier de soie peut-être, et plus tard, si on lui donnait beaucoup plus tard, quand elle serait pour se marier, et si on lui donnait une montre en or. Se croyant fort sage, elle se moqua de cette pensée et haussa les épaules à sa propre chimère. Une montre en or, quelle invraisemblance, quelle absurdité! Enfin, on lui donnerait bien quelque chose, on ne savait pas quoi. Et lorsqu'elle reviendrait, quelle joie d'étaler les beaux présents qu'elle aurait reçus en témoignage de satisfaction pour sa bonne conduite. Sa mère, qui la traitait toujours comme une enfant, verrait bien que Monique pouvait être sage sans qu'on eût besoin d'être toujours à la gronder, comme elle le faisait ici. « Monique, tu as encore oublié de donner à manger aux poules !» dit Clémence d'un ton bourru. « Ah, depuis que tu as idée de mariage, tu n'es plus bonne à rien. Vraiment, tu feras bien de t'en aller. » La jeune fille s'était levée dès le premier mot et avait rempli son tablier de grains pris dans un coffre. « Ah, là-bas, pensa-t-elle, le cœur bondissant de colère, les gens ne seront pas toujours après moi avec des paroles dures. Et puis d'abord, je ne le supporterai pas. J'en ai assez d'être menée comme une bête avec des mots qui sont comme des coups de fouet. » Et sa pensée se tourna soudain avec reconnaissance vers Marin, qui lui avait épargné toujours tant de peine et qui ne lui avait jamais parlé qu'avec douceur.